Alors, il nous reste une trentaine de minutes pour des questions de la salle. Alors, est-ce qu'il y a des questions ?
Bonjour à tous. Du coup, ma question, remarque, serait pour David Buxton. Donc, merci beaucoup pour votre présentation. Si j'ai bien compris, à la fin de ce que vous disiez, c'est que finalement, la force d'une série feuilletonnante, ça va être les éléments d'instabilité qu'on peut y intégrer. Et je me demandais du coup si cette instabilité, c'est bien elle qui va générer la surprise, donc entretenir le plaisir chez le spectateur, et si du coup en entretenant le plaisir chez le spectateur, en le maintenant dans un état de surprise, si de cette façon on va augmenter les détournements des usages des spectateurs, c'est-à-dire ne pas consommer une série immédiatement, etc., etc.
Je vous remercie pour une question assez complexe. Cette instabilité, je pense que c'est le prix à payer pour maintenir le plaisir du téléspectateur. Hein. On n'est plus dans le monde assez au milieu des séries classiques. Mais pour moi, plaisir, c'est une question idéologique. Ça veut dire sans reconnaissance idéologique, il n'y a pas de plaisir possible. Ça veut dire que si on ne peut pas s'insérer un peu dans le monde de la série, dire que ça c'est une bonne histoire, ça m'intéresse, il n'y a pas de plaisir possible. D'accord ? Cette question sur le détournement des usages, ça c'est quelque chose que je n'ai pas pu aborder, mais il est vrai que l'évolution dans la diffusion des séries fait en sorte que le mot série télévisée devient un peu inadéquat, en fait. Hein. La consommation, surtout chez les jeunes, en fait, ce n'est plus pas la programmation télévisée, en fait. Hein. C'est pas streaming, pas la vidéo à la demande. Donc là, ça va obligatoirement poser des questions de la forme, parce que dès lors qu'on met en ligne d'avance une saison entière d'une série, ça ne fait pas sens d'essayer de prolonger les termes de cette série pendant 6, 7, 8 ou 9 ans, en fait. La série devient de fait une espèce de super long métrage découpé. Hein. D'accord ? Donc la sérialité change de nature. Là. Donc, est-ce qu'on peut parler de détournement ? Oui et non, hein, parce que bon, on n'est plus enchaîné à la programmation à l'avance, donc il y a une certaine liberté du consommateur là, mais en même temps, on n'a jamais vu autant de discours autour de la série. Hein, c'est j'ai l'impression en fait de gommer cet aspect de la réception, c'est parce que je pense que tout discours tenu sur la série, que ce soit dans les journaux, sur les blogs, fait partie de l'objet d'étude, en fait. Hein. Ça fait partie du texte, en fait. Hein. Il y a la série strictement dite, mais il y a aussi tout ce qu'on dit autour. Et il faut maintenant un énorme discours, on appelle ça le buzz, hein, pour que la série devienne consommable. Je veux dire, on ne conçoit pas, regarder une saison de Game of Thrones, on ne peut pas échapper en fait à ce discours qui fait partie de la série. Donc il n'y a pas un en dehors en fait du discours. En fait. Il n'y a pas moyen pour le téléspectateur, sauf circonstances exceptionnelles. Je trouve que les discours de la réception ont tendance à déshistoriser en fait la réception. Hein. Ça veut dire qu'on peut imaginer que dans une conjoncture historique exceptionnelle, il y a moyen de faire contre-lecture d'une série. Je prends le seul exemple que je connais de ça, c'est l'enquête menée par Michel Matelard dans les bidonvilles de Santiago, où les ouvriers les plus mobilisés, dans un sens marxiste, faisaient une lecture à rebours de Mission Impossible, où ils transformaient les méchants latino-américains en anti-impérialisme. Mais ça, c'est exceptionnel, ce n'est pas la norme. Mais sinon, sans prise de conscience politique exceptionnelle, il n'y a pas un en dehors, en fait, hein, de la réception. J'ajoute une chose, c'est que la série est objectivement ambiguë aussi. Il y a toujours plusieurs lectures possibles. Ce n'est pas parce qu'on fait une lecture contrariée qu'on échappe forcément à la série. Je donne un seul exemple et puis je termine. La série se doit de ne pas se mettre à dos en fait, une partie du public. Hein. L'idée, c'est rallier une audience maximale. Donc, presque n'importe quelle série, il y a plusieurs lectures possibles. 24, par exemple, on peut s'adresser aux gens libéraux, dans le sens américain, ou à gauche, et dire que, voilà, vous êtes comblés, vous avez un président noir, progressiste. En contrepartie, on vous demande d'accepter une vision sécuritaire du monde. Bon, on est content. Et aux gens de droite, on peut dire, ben, voilà, vous êtes gâtés. Hein, vous avez une série qui endosse une vision sécuritaire du monde, qui défend même la pratique de la torture. En contrepartie, on vous demande d'accepter un président noir et après, encore pire, un président femme. D'accord ? Donc les deux lectures sont possibles. Ça change pas la nature du contenu, mais les deux contre-lectures sont toujours possibles. Donc, pour moi, il n'y a pas de détournement. Normalement, il n'y a pas de détournement possible.
Oui, c'est une question pour Éric Maigret. Donc, c'est un peu une réaction à chaud, mais voilà. Et en fait, d'un point de vue de la pragmatique politique, et c'est hyper important de souligner que la contestation ne veut pas faire l'affaire, c'est-à-dire qu'il faut insister sur des formes justement affirmatives, joyeuses ou culturelles pour amener un programme de gauche, on va dire. Et d'ailleurs, parce que d'une part, la résistance et la réaction ont été souvent perdantes sur ce point. Et je pensais au livre de Lazzarato, un des derniers, quand il dit qu'en fait, pour sortir, étant donné que le capitalisme défait les liens sociaux, et il a une nécessité des liens sociaux, en fait, pour se renouveler. Et du coup, la question des cultures populaires, justement, de la part des minorités, c'est-à-dire de cette affirmation joyeuse, elle est hyper importante pour sortir de la crise où il est depuis les années 2000, il dit, avec l'homme endetté et tout ça. Mais bon, c'est pour dire que c'est des dynamiques que le capitalisme a très bien compris, d'ailleurs. Mais ma question, c'est plutôt par rapport à deux choses, c'est-à-dire, c'est un peu quelque chose qui m'a gênée dans votre exposé, d'un point de vue politique et pas théorique. C'est d'une part le fait que la valorisation en fait, d'un individualisme contre les traditionnalismes culturels, je me demande à quel point en fait, une rénovation totale du champ politique, de ce qu'on peut faire, doit forcément passer par les sujets individuels, ou bien il ne peut pas justement s'engager dans des processus de subjectivation transversaux, ce qu'il avait déjà proposé Foucault ou Guattari à des moments dans les années 70 où il travaillait avec des prisons et de la psychanalyse. Et d'autre part, ma question, c'est par rapport à quand vous avez dit oui, et soyons abrégeants de la gauche à la droite et tout ça, ça me fait réagir évidemment. Et de dire, est-ce que finalement, quand on parle des cultures populaires, dans votre exposé, on parle d'un programme de gouvernement, dans le sens, quelle est la position qu'on occupe quand on parle des populaires? Est-ce que ça peut être autre chose que celle d'un intellectuel ou d'un homme politique qui la regarde de surplomb, forcément? Voilà, du coup, je ne sais pas si...
Bon,
c'est politique, ma question, sont politiques, c'est
oui,
dans
bien
les
sûr,
forces...
Bien voilà. Sûr. Bon, pour faire très vite sur les processus transversaux, évidemment, ils sont centraux aujourd'hui, les mouvements zapatistes, Occupy, Nuit Debout, etc. Ils sont beaucoup travaillés, ils sont influencés dans le champ théorique par des spinozistes, deleuziens, etc. Tout ça est absolument bienvenu et nous apprend beaucoup de choses. Je vais reprendre plutôt Larry Grossberg que Stuart Hall, qui est un peu dans le prolongement de Hall de ce point de vue-là. Le problème n'est pas leur existence, ça c'est plutôt une solution, mais le problème est dans le fait de faire coexister, là, en partie contre ce que souhaitent ces mouvements, un niveau de politique et aussi un niveau plus étatique, plus vertical. Parce qu'il ne vous a pas échappé que les sociétés et les mondes dans lesquels on vit ne sont pas en voie de liquéfaction. Donc la réappropriation par l'horizontalité, elle est super importante à titre de matrice intellectuelle, de pratique alternative, de coagulation possible, coalescence, etc. Mais elle ne remplace pas une verticalité des pratiques, y compris dans le champ politique, que Deleuze lui-même ne niait pas d'ailleurs. Il faut rappeler que chez Deleuze, il y a le rhizome, il y a tout ça, mais il y a aussi le plan de l'organisation chez Deleuze. On a tendance un peu à l'oublier d'ailleurs au passage. Voilà, donc le problème, c'est plutôt de faire en sorte que les deux se rencontrent à un moment donné, sachant qu'ils s'opposent pour partie, c'est vrai, avec de bonnes raisons. Chez les horizontalistes, il y a quand même un rejet de la politique verticale, pour des raisons qui sont liées au fait que si on élit telle gauche, elle fera les mêmes problèmes que la droite, et ça, tout ça est en partie avéré quand même. Mais en même temps, ne pas s'engager verticalement, ça peut donner aussi des votes dans lesquels on est très surpris de découvrir le résultat. Voilà. Donc je pense que c'est une collaboration entre les deux qui est absolument indissociable, indispensable. Alors après, je vous ai fait sourire. Je vous ai pas fait rire d'ailleurs avec mon intervention. Elle n'était pas drôle du tout. Donc j'étais pas chez Spinoza pour le coup. Pour faire très simple, j'étais plutôt chez Hall. Vous savez, le Hall qui dit il faut allier le pessimisme de l'intellect à l'optimisme de la volonté. J'étais dans le pessimisme de l'intellect. Voilà. L'optimisme de la volonté, c'est quelques phrases pour finir. Mais en fait, il faut être joyeux, évidemment. Et le monde à venir est probablement très intéressant. Mais il faut attendre que se déconstruise et aider à ce que se déconstruise le monde actuel. Ce qui n'est pas toujours très rigolo quand même. Voilà. Donc de la gauche à la droite, je vous ai peut-être fait un tout petit peu sourire. Là, par contre, c'est vraiment une référence à Hall, parce qu'il est vrai que Hall, mais c'est peut-être une de ses limites historiques, mais je pense qu'elle est quand même, cette remarque est quand même importante, fonctionne ou réfléchit beaucoup à partir du compromis socio-historique établi après la Seconde Guerre mondiale, qui allait des communistes, par exemple, en France, jusqu'au mouvement chrétiens gouvernementaux, je veux dire, en incluant donc la gauche, la droite. Et c'est quand même ce compromis socio-historique qui a permis de faire passer la sécurité sociale, toute la législation progressiste sur le chômage contemporain, etc., etc. En échange de quoi, la droite et le capital, on va dire, a accepté cela, en échange de quoi les syndicats, la gauche, a accepté de continuer de fonctionner dans un capitalisme en partie encadré par l'État. Voilà, c'est un compromis qui laissait sur la route les minorités, les subalternes de race, de classe, enfin de race plutôt que de classe d'ailleurs, de genre, de sexe, et ça on l'a vu petit à petit. Mais ce compromis a été super important historiquement pour que nous, sur certains plans en tout cas, nous avancions collectivement, de façon solidaire. Donc c'est pas simplement une blague de dire de gauche à droite. À un moment donné, il y a des compromis à faire probablement à d'autres niveaux que simplement au sein d'une extrême gauche ou entre une extrême gauche et une gauche. Si on veut des choses plus lourdes et plus fondamentales, voilà. Alors, sauf à imaginer une posture purement révolutionnaire. Mais ce que j'observe, c'est que en Espagne, Podemos n'y arrive pas seul, et à mon avis, n'y arrivera jamais. Jamais, j'en sais rien. Mais il n'y arrive pas dans ces conditions. Et quand ça passe, comme en Grèce, Syriza. C'est dans des conditions qui rendent de toute façon impossible l'exercice politique avancé ou défendu. Voilà. Je n'ai pas d'autres éléments. Je pourrais rajouter un autre élément, c'est sur l'ambiance pesante. Il y a des théoriciens dans les cultural studies qui essayent d'expliquer qu'on est entré dans une phase de consentement populaire à l'égard de ces néolibéralismes, voire populisme pour partie, mais un consentement qui est désaffecté. C'est un concept de Jeremy Gilbert, disaffected consent. C'est un consentement un peu hostile, par mécontentement. On n'est plus vraiment dans ce consentement populaire, même décrit par Hall à l'égard du thatcherisme, où il y a quand même une fraction de gens qui sont même plutôt satisfaits, qui se disent qu'à travers ça, leur destin va changer, etc. Donc, le Brexit a un peu illustré, à mon avis, ce disaffected consent. On n'est pas content, de toute façon. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'on est probablement sur un point de rupture par rapport à l'idée même de consentement, en fait.
Bonjour. Une question à M. David Buxton sur les séries télé. Est-ce que vous pensez que le réalisme psychologique que la série télé a intégré pour attirer les téléspectateurs soit aussi un capital fictif ? Est-ce que le réalisme psychologique fait partie du capital fictif dont vous parlez ? Et deuxième question, qu'est-ce que vous pensez du spoiler, phénomène du spoiler, ou alors la hantise envers les spoilers? C'est un phénomène qui, du coup, concerne la réception des séries télé, peut-être qui est lié au plaisir de la série télé. Voilà, merci.
Est-ce que... Le réalisme psychologique fait partie du capital fixe. Non, je dirais le capital fixe, en fait, c'est ce que j'appelle l'assemblage. C'est ce dont une série doit réunir avant même le premier épisode. Hein. C'est tout ce qui est immanent à la série. Donc, tout ce qui est rassemblé ou assemblé, ça veut dire personnage, décor, situation, hein, pour avant même de pouvoir raconter une intrigue. L'intrigue, en fait, c'est une espèce de machine, en fait, hein, pour produire de la récurrence. En fait. C'est ça, un assemblage. Hein. Donc, moi, je pense que ce que Adorno appelle le pseudo-réalisme psychologique, c'est un frein à l'assemblage, en fait. Il y a un moment, ben, je vous donne un exemple. Hein. Deux flics à Miami. Hein. Et quand j'écris mon premier livre sur les séries, bon, c'est une série qui n'intéresse plus personne maintenant. Hein, et ça, Dallas non plus, hein, ça n'intéresse personne. Hein, c'est même des séries invisibles. Mais à l'époque, bon, on a vu ça comme le nec plus ultra. Hein, c'est une série esthétisante. Mais ce qui m'a frappé dans De Flics à Miami, c'est l'extrême passivité du propos. Hein, où les flics, ben, ils font la gueule. Ils disent, ben voilà, on est impuissants, il n'y a rien à faire, le monde est pourri. Au moins, nous, on peut se regarder dans le miroir, etc. Bon, je veux dire, c'est extrêmement... Je pense que ça, à la limite, c'est presque la limite de la forme série. Je l'ai dit à l'époque, mais j'avais tort, en fait. Avec la soumission réelle, on n'arrête pas d'approfondir cette passivité en même temps. Je veux dire, après, il y a X-Files qui raconte carrément la fin de l'espèce humaine. Hein. C'est le remplacement de l'espèce humaine par une nouvelle espèce métissée. C'était prévu pour 2012. Bon, c'est un peu en retard. Game of Thrones. Bon, l'hiver vient. Hein. De toute façon, là aussi, ça raconte un peu la fin du monde. Ça veut dire la série feuilletonnante, il y a une espèce de fatum. Hein, ça veut dire que même l'héros masculin est mis à mal parce qu'en fait, il ne fait que subir en fait, hein, un destin qu'il ne maîtrise pas. Donc, je prends De Flics à Miami comme exemple. Là où ça devient carrément absurde, c'est que les deux flics, qu'est-ce qu'ils les valorisent ? C'est non pas en tant que flics, mais c'est leur capacité à se déguiser en trafiquant de drogue. Hein? Bon, on aurait pensé que dans une ville comme Miami, qui n'est quand même pas une ville énorme, hein? Hein, c'est une grande ville, mais ce n'est pas énorme, qu'après quelques années, vous savez, les trafiquants de drogue, etc., bah, ils reniflent un peu le poulet. Hein? Hein? Ça veut dire que ça devient carrément absurde que semaine après semaine, ils peuvent infiltrer des milieux des trafiquants, de la prostitution. Ils sont très crédibles. Ils jouent bien leur rôle. Mais je veux dire que là, c'est un frein à le maintien de la série, en fait. Il y a un moment où ça devient trop ridicule. Il faut arrêter les frères. Voilà. Et l'autre, le spoiler. Je crois que le spoiler, oui, c'est une espèce de fétiche. Je veux dire que... Maintenant, je sais que Game of Thrones, dans la presse du monde entier, hein, le lendemain de la diffusion américaine, il y a des articles qui racontent l'épisode. Hein. Bah, évidemment, bah, il faut spoiler pour ceux qui n'ont pas regardé. Hein. Mais en même temps, pourquoi ce discours médiatique à ce point-là, hein. Ça veut dire spoiler, qu'est-ce qui nécessite en fait le recours à ce terme spoiler si ce n'est pas une espèce de bavardage démesuré en fait qui accompagne désormais le phénomène série et auquel en tant que public on ne peut pas s'y extraire.
Les Canadiens viennent d'inventer un mot pour franciser spoiler.
Ouais.
C'est
quoi?
C'est divulgacher.
Ah. C'est pas mal.
Oui, bonjour. Bonjour. Oui, j'aurais une question pour Franck Freitas. En fait, je voulais revenir sur la critique que vous proposiez de Paul Gilroy. Donc, en gros, si j'ai bien compris, vous lui reprochez de faire une analyse qui serait un petit peu simpliste entre le mouvement des droits civiques, qui serait en gros entièrement marxiste et anticapitaliste, tandis qu'au contraire, la nouvelle génération de la culture noire serait plutôt capitaliste et pas critique. Et donc la critique que vous proposez, en fait, ce serait d'aller un peu au-delà de cette opposition un peu schématique et finalement un peu essentialisante. Et du coup, la question que je voulais poser, c'est savoir si on ne peut pas se nourrir de la pensée de Stuart Hall pour faire ce genre d'analyse un peu plus fine où on n'oppose pas d'un côté la classe et de l'autre la race, mais où on essaye de combiner les deux et de savoir si, en fait, finalement, la position qu'il peut avoir à la fin de sa vie, je ne sais pas si c'est une position tactique, mais enfin, est-ce qu'on ne peut pas se nourrir de cette position-là pour avoir une analyse un peu plus fine ?
C'est un peu, au fait, ce que je reproche à Gilroy, c'est de ne pas avoir suffisamment puisé dans le bagage théorique des cultural studies et essentiellement de Stuart Hall pour à peu près pour nuancer, c'est-à-dire que alors que dans la pensée gilroyenne, j'ai l'impression que c'est plus l'école de Francfort qui tire, qui est la locomotive et derrière il y a les cultural studies et pas l'inverse. Et je suis d'accord sur le fait qu'on peut utiliser Stuart Hall notamment sur ses concepts d'articulation pour penser justement comment, déjà pour historiciser, mais également pour penser comment il y a eu à la fois ce basculement et pourquoi, et comment justement, à travers des politiques de représentation, le capitalisme a été capable de créer une vraie politique de reconnaissance qui a été beaucoup plus timide dans les critiques, dans les mouvements critiques du capitalisme. En gros, cette estime de soi qui est capitale, on parle vraiment de populations qui ont été, je veux dire, déshumanisées, ils l'ont trouvé dans des politiques qui sont plus néolibérales ou capitalistes qu'ailleurs. Bon, il y a eu, bien sûr, pour nuancer, il y a eu vraiment les Black Panthers qui ont impulsé et qui ont été d'ailleurs violemment neutralisés. Mais il y a un discours de gauche qui, me semble-t-il, n'intègre pas suffisamment la question raciale et qui n'est pas suffisamment attractif pour des underclass, qui peut être, dont la pensée de Hall peut problématiser, etc. Et je pense sincèrement que oui, il manque cet aspect de Stuart Hall, c'est-à-dire en termes de gramscien, enfin en termes d'articulation, mais également sur son analyse gramscienne de la race, dans les deux derniers ouvrages de Stuart Hall. De Gilroy.
Bonjour, ma question est pour Monsieur Maigret. Alors, vous avez parlé de la notion de compromis dans la gauche, dans la droite. Est-ce que, selon vous, la droite est plus prête à faire des compromis que la gauche pour atteindre certains de ses objectifs communs? On le voit aux États-Unis avec Sanders, Clinton, on le voit en Espagne avec Podemos, le Parti socialiste, on le voit aussi au Québec, d'où je viens, comme vous pouvez l'entendre sûrement. Puis, si oui, si pour vous, la droite est plus prête à faire des compromis, est-ce que vous croyez que la gauche serait plus radicale en ce sens où elle est moins prête à céder du terrain sur la racine de ses idéaux, surtout dans les extrêmes, mais la gauche en général? Merci.
Moi, il me semble que non, la droite n'est pas prête du tout à faire des compromis, hein, ça dépend des pays peut-être, mais non, c'est vrai. Donc ça veut dire que le mouvement, la question de l'articulation, elle se situe à gauche aujourd'hui. Voilà. Mais si historiquement on peut vivre ça, on peut vivre quelque chose qui permettrait de créer des conditions d'une nouvelle sorte de compromis très acceptable, ça pourrait aller jusqu'à des formes de droite, peut-être, ou en tout cas de recomposition de ces droites. Mais on n'en est pas là du tout, je suis d'accord. Je ne peux pas ajouter, hélas, quelque chose à ça. C'est terrible, justement. Bon.
On va prendre deux dernières petites questions. Donc, il y en avait une là-bas. Jérôme Guilbert.
Bonjour. Donc c'est une question encore pour Eric, excusez-moi, je suis arrivé en retard. Mais je voulais te poser une question sur la question du néolibéralisme, parce que si j'ai bien compris ce que tu disais, d'une certaine manière, c'est pas tellement possible de de faire des cultures, je te dise, de droite au sens néolibéral, et sur cette question un peu qui reste compliquée de la thèse, voilà, qui dit que, qui revient notamment à certains textes de Foucault, enfin, qui souligne l'aspect émancipateur du néolibéralisme dans certaines situations ou dans, enfin, dans certains systèmes d'articulation. Et je voudrais savoir juste ce que tu penses de ça, parce qu'on a l'impression que, au-delà de gauche-droite, tu cernais un peu l'ennemi. Enfin, je pense que j'ai compris que tu cernais l'ennemi principal comme le néolibéralisme, mais je ne suis pas sûr, vraiment. C'est juste une précision.
Franck l'a très bien dit. Il y a des dimensions émancipatrices dans les industries et dans les marchés. Voilà, bon, ça, on le connaît depuis longtemps. En France, c'est Morin le premier qui l'a bien mis en forme. Hein. Cette dualité entre innovation, standardisation, capacité de s'investir dans des produits de consommation grand public. Et donc, il ne faut pas avoir peur du marché en soi. Voilà, c'est ce qu'on en fait, à quoi on l'articule en réalité. Alors, le néolibéralisme, c'est autre chose, parce que c'est une organisation en partie idéologique de certaines pratiques de marché. Et est-ce que c'est l'ennemi en soi ? Là encore, moi, je ne crois pas, en fait, je suis assez oulien, là encore, que le néolibéralisme existe véritablement ou uniformément. Donc c'est là que je m'éloigne du marxisme ou de certains marxismes qui ont tendance à considérer qu'il y a une définition très nette et très claire de ce que serait le libéralisme puis le néolibéralisme. Bon, chez Hall, c'est... Il y a une diversité historique, il y a une diversité géographique. Sauf que les conditions sont devenues suffisamment partagées et peut-être dures pour certaines populations pour qu'on puisse se permettre de généraliser. C'est ça qu'il fait à la fin de sa vie, en parlant de révolution néolibérale, ce qui pour lui d'ailleurs est un oxymore en fait. Une révolution, parce que je vous signale quand même que Hall est le penseur de la conjoncture, donc il le dit lui-même en partie du court terme. Révolution renvoie à du long terme. Donc il y a un très beau texte où il explique justement qu'a priori, c'est en contradiction totale avec ce qu'il a toujours voulu faire, c'est-à-dire évoquer de l'entrelacement à court terme, moyen terme, à travers des crises, qu'on puisse identifier, défaire, etc., même si ça peut courir sur plusieurs années, voire générations. Bon. Sauf qu'il va parler de révolution néolibérale. Bon. En fait, c'est pour donner une impression de systématicité qu'on serait en train de subir et de vivre, même s'il ne faut pas revenir à un marxisme classique pour lui. Okay. Donc, est-ce qu'il y a une émancipation possible à travers le néolibéralisme au-delà de l'émancipation par le marché pour certaines personnes dans certains contextes? C'est ce qui était promis par le thatcherisme, et ça a pu marcher. Ça peut marcher, je ne sais pas moi, pour des financiers, des banquiers, des classes moyennes, des propriétaires. Mais des gens qui... Il y a des ironies de l'histoire aussi. Il y a des gens qui vont être sur la paille après, etc. Donc le néolibéralisme n'est pas en soi émancipateur. Il a plutôt tendance à... Enfin, j'aime pas généraliser sur cet aspect-là, mais il a plutôt tendance à enserrer les gens quand même et à provoquer des situations insoutenables quand même à long terme. C'est ce qu'on observe. Je ne sais pas si je réponds vraiment à ta question, Jérôme.
Une dernière petite question ici. Désolé.
Oui, c'est une question pour Franck. J'ai l'impression que quand on s'adresse aux minorités, on en demande toujours plus. C'est-à-dire qu'on demande toujours une espèce de fort et une sorte de sainteté, voire d'allégeance même à une pensée radicale, voire toujours critique, qu'on ne demande pas aux autres. Du coup, je me demande pourquoi ne pas produire une lecture, je dirais, positive, enfin, si un contre-carrant aussi, évidemment, un contre-pied par rapport à la lecture qui va dans le sens de la critique qui critique la critique que tu adresses, effectivement. Mais parce que je me dis, devant une pensée de gauche blanche hétérosexuelle qui ne peut même pas prononcer le mot race, est-ce que le fait d'embrasser une perspective d'émancipation, entre guillemets, parce que le mot je n'y crois pas, mais en tout cas une perspective de réalisation dans le néolibéralisme racisé cette fois, n'est pas déjà en soi un acte très critique et super intéressant à valoriser comme tel? C'est-à-dire c'est un coup de pied effectivement à une gauche qui est incapable de reprendre prendre en fait à bas-le-corps les questions raciales.
C'est au fait ce que je reproche. Bon, je parlais de Gilroy, mais je pense Gilroy, c'était un peu l'excuse, mais c'est plus à la gauche que je reproche un peu justement de ne pas voir ces tactiques dans le sens de Certeau. développé par l'underclass racisé, justement, ou qui ne sont pas dans une logique de révolution, etc., de radicalisation, comme en effet on attend d'eux, parce qu'ils ne sont pas propriétaires, etc. Donc, en gros, c'est une locomotive potentiellement très subversive. Et c'est un peu ça que je reproche. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ou comment peut-on penser la résistance à travers ce point de vue situé très précis? Et ma question, c'est encore une fois, pourquoi ce type de représentation, presque insolente finalement, d'exaltation dans le néolibéralisme, aussi critique qu'il soit, n'est pas... il est de fait rejeté de nos lectures critiques, mais il n'est pas intégré dans le sens de comment on peut reconnaître en effet qu'à partir de rien, des gens trouvent de l'amour, de l'estime de soi dans les systèmes de domination les plus agressifs qui soient, avec toutes les contradictions qui se posent. Parce que bien sûr, ces artistes, ou plus généralement l'underclass noire américaine, est consciente d'être, entre guillemets, asservie par cette société de consommation. Elle est totalement consciente, contrairement à ce que Gilroy le dit, ou du moins le nie. Et ce que je lui reproche, lui, mais plus généralement à la gauche, c'est de ne pas poser cette question-là. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on théorise quand on voit ce type de paradoxe? On a tendance, je m'inclus dedans, mais à construire des généalogies qui romantisent les résistances des personnes racisées ou des prolétaires, mais il faut aussi penser à la manière dont parallèlement aussi le capitalisme bien sûr travaille aussi ces populations-là. On ne peut pas exclure la question des résistances dans le sens noble du terme en excluant ces micro-politiques, ces tactiques-là. Et comment on fait maintenant pour les penser et proposer surtout une alternative attractive pour ces personnes, enfin proposer, à partir aussi de leur point de vue et les reconnaître aussi, surtout, comme intellectuels organiques, ce qui n'est très peu le cas. On rigole de ces clips ou de ces rappeurs comme Gilroy, mais on ne pense pas qu'ils proposent une définition alternative et comment elle est née. Comment elle est née. Et c'est ça qui est intéressant. Et les années Reagan ont été capables, dans toute sa violence, de parallèlement, pour pouvoir perdurer, se reproduire, de créer des niches de reconnaissance, certes pour quelques-uns, mais ça marche. Tout le monde, aspire à ce rêve américain. Et ça nourrit des familles, etc. Il faut le penser aussi. Ça nourrit des familles dans le court terme.
Voilà, on va donc conclure cette table ronde. Je remercie les trois intervenants d'aujourd'hui et on se retrouve, si je ne m'abuse, à 17h.
On se retrouve à 17h et je vous rappelle de ne pas oublier de déposer les casques avant de sortir, s'il vous plaît. Merci.